des livres,
de la musique,
des jeux,
du cinéma,
des animations,
des événements,
des rencontres.
À Radio Bartas, on vous parle de nos coups de cœur.
L'eau à la bouche, une émission proposée par la bibliothèque de Florac Trois-Rivières et ses amis.
Bonjour à tous nos fidèles auditeurs et auditrices, et bienvenue à ceux qui nous découvrent. Pour ce début d'émission, je souhaite vous rappeler qui nous sommes. Nous voici à la charnière de deux années, 2022-2023, et c'est l'heure des bilans et des projets. Les Amis de la Bibliothèque fonctionnent en association Loi 1901. Elle est habitée, à ce jour, par une trentaine d'adhérents, dont un CA collégial. Pas de président, de trésorier ou de secrétaire, mais des commissions qui tiennent ces rôles. Le CA se réunit une fois par mois, le jeudi à 12h30 à la bibliothèque. Notre association a pour but, nommé dans les statuts, de favoriser le développement de la lecture, de la culture pour tous et de la culture savante en apportant son soutien aux activités et aux animations de la bibliothèque municipale. Cette association existe au moins depuis 1978. Elle en a vu passer des adhérents qui, chaque année, ont apporté des idées nouvelles, des projets sympas et de réalisations, bien sûr. L'une des dernières idées a été de créer une émission avec Radio Bartas et c'est fait depuis le 5 octobre 2021. Il a fallu une réunion aux Amis de la Bibliothèque pour décider de son titre, « L'eau à la bouche » et de sa présentation radiophonique. Donc, depuis maintenant plus d'une année, nous nous sommes relayés pour évoquer nos coups de cœur sur des romans, des polars, des BD, des livres pour enfants ou des jeux et même de la musique. Ce n'est plus une bibliothèque à Florac, c'est une médiathèque. Bien sûr, tous les coups de cœur sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter et avis aux amateurs. Chez Radio Bartas, on est bien accueillis. Je rappelle que l'eau à la bouche est diffusée le dimanche à 10h et la semaine suivante le lundi à 10h30. Alors, je vous disais que la bibliothèque est une véritable médiathèque, car il y a des DVD aussi. Je vais donc vous parler d'un de ces films qu'on y trouve, La balade de Narayama. C'est une fiction japonaise réalisée par Shohei Imamura en 1983. Il a obtenu cette année-là la Palme d'Or au Festival de Cannes, une consécration que personne n'avait vue venir. Ce film se déroule au Japon, dans un hameau perdu, dans la montagne, vers la fin du 19e siècle, où les habitants vivent dans une grande pauvreté. Nous les voyons cohabiter tout au long de l'année dans une nature plus ou moins hostile. De superbes paysages apparaissent selon les saisons, ainsi que des animaux sauvages qui partagent la vie de ces villageois. La nature est présente partout dans sa beauté et sa cruauté. Ces humains sont rustres, livrés à eux-mêmes, dans une communauté où les règles de vie s'inventent en fonction des événements. Mais il y a une règle, une tradition, une croyance, une coutume qui perdure, c'est de laisser sa place à l'âge de 70 ans. Aurine vient d'avoir 70 ans et il est temps pour elle de rejoindre un sanctuaire mystérieux, dernière demeure des ancêtres du village. C'est à son fils, Tatsuhei, qu'il revient d'accomplir le rituel, la porter sur son dos au sommet de la montagne Nara. Narayama est à la base un roman de Shichiro Fukasawa, paru en 1957, avec une édition française en 1979. Un premier film avait déjà été réalisé, d'après ce roman, en 1958 par Keisuke Kinoshita. Le livre, à l'époque, avait choqué le Japon. Mais le film est aussi inspiré d'un autre livre du même auteur, Les Hommes du Nord. Autant Narayama va se focaliser sur la pauvreté et la famine, autant Les Hommes du Nord va rendre compte de l'appétit sexuel. Dans la famille qui est au centre du film, le fils est joué par Ken Ogata, qui connaît bien le réalisateur et sait qu'il faut donner de sa personne. Pour le personnage de la mère, une première actrice n'a pas supporté les conditions du tournage et c'est Sumiko Sakamoto qui a pris le relais, prête à subir tout ce qui était imposé à son rôle. Le tournage s'est déroulé dans un village abandonné, isolé, difficile d'accès. Les conditions naturelles, la météo changeante, le besoin de saisir toutes les saisons ont rendu le tournage difficile. Le réalisateur a voulu s'intéresser aux facettes cachées de l'histoire humaine, aux coutumes archaïques, aux modes de vie marqués par la pauvreté. Il voulait décrire la vie quotidienne du hameau en détail. Ce réalisateur nous dit que, en général, l'être humain refuse de mourir volontairement. On ne peut pas le lui imposer naturellement. C'est pour cette raison qu'on a créé les religions, les dieux et certaines coutumes pour faciliter les sacrifices. Ce sont l'extrême pauvreté et les difficultés matérielles qui facilitent des phénomènes comme le sénicide. Dans la balade de Narayama, on se demande si le plaisir existe. Certaines scènes montrent que les êtres cherchent le plaisir. Les personnages refusent de souffrir éternellement. Ils mangent et baisent malgré la pauvreté. Ils ont plaisir à vivre malgré tout. Le réalisateur aime les scènes symboliques, comme la disparition du père. Il nous dit aussi que la femme décide de la vie et de la mort. Chacun pourra s'approprier ce film en fonction de son vécu, mais il faut souligner qu'il vient de l'Orient, l'Asie, le Japon, et que notre lecture à nous est occidentale. Bon film!
Eh bien, après avoir parlé cinéma, eh bien, moi, je vais vous parler roman, mais c'est aussi un peu un drôle de cinéma, vous allez voir. Je vais vous parler d'un roman qui s'appelle « Qui se souvient de Philippe Jo ?» de Marcus Malte, aux éditions Zulma. 567 pages. Eh ouais, je vais encore vous parler d'un pavé. Mais celui-là, je l'ai vraiment pris par hasard. Et nos amis bibliothécaires n'y sont pour rien. Et en plus, je dois avouer qu'il ne s'agit pas d'un coup de cœur, comme les autres fois où j'ai pu vous décrire mon enthousiasme. Non, là, il s'est passé autre chose qui a été du registre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et c'est plus le fait de mes nombreuses interrogations qui m'ont stimulée dans ma lecture. En fait, ce livre est construit en 5 récits, ce que je n'avais pas perçu au début de ma lecture. Bon, vous êtes prévenus, mais je pense que cela n'empêchera pas les surprises. Et ces 5 récits ont chacun un narrateur différent, avec de ce fait un style propre à ces derniers, ce qui constitue en soi presque un roman à chaque fois. C'est vrai qu'on voit souvent dans les romans actuels une construction par chapitre consacrée à un protagoniste. Ici, c'est différent. Il y a comme un passage de relais entre chaque partie, mais sans qu'on ait eu le temps de comprendre parfaitement le récit précédent. Et d'ailleurs, comme je n'avais pas spécialement étudié le roman, j'ai cru qu'on allait avancer un peu à l'ancienne, sur un mode chronologique, et paf, le premier récit s'est arrêté, de manière évidemment spéciale, et j'ai dû me remettre dans le bain d'un nouveau personnage et son récit. Bien sûr, chaque narrateur est d'une manière ou d'une autre relié à l'événement fondateur du roman, à savoir la mort un peu bête et bizarre de Philippe Jo. Ce Philippe Jo, Philippe Joseph de son vrai nom, génie surdoué qui, par malchance, est né le jour de l'assassinat de Kennedy, qui lui vole la vedette, bien sûr, à l'hôpital où sa mère se débrouille à le mettre au monde et qui, donc, jeune adulte, aurait trouvé, projet prodigieux, comment produire de l'énergie gratuite. Ainsi, il défend son projet face à son beau-frère. Petit extrait. Alors, l'auteur ne manque pas d'humour. Hein. À suivre, longue tirade de l'acte 1, scène 6, morceau de bravoure. Attention, c'est parti. Je crois que tu ne saisis pas bien ce que cela implique, Gary. Si chacun pouvait disposer de sa propre source d'électricité gratuite et infinie, si chacun pouvait se brancher directement au grand courant de l'espace, ça voudrait dire qu'on pourrait se passer de ceux qui détiennent les cordons de la bourse, ceux qui ont fait main basse sur les sources d'énergie actuelles, ceux qui la produisent et la distribuent, ceux qui ouvrent ou qui ferment le robinet à leur guise. Avec l'énergie de l'espace, fini les combustibles fossiles, fini les champs de pétrole et de gaz, fini les mines de charbon, fini également les centrales nucléaires et fini toutes les infrastructures qui vont avec, les kilomètres de pipelines et d'oléoducs, les millions de fils de la vaste toile d'araignée électrique qui couvre la planète, et fini ceux qui la tissent, la toile, ceux qui fabriquent le matériel et qui l'installent, qui le maintiennent, ceux qui en tirent profit. Plus besoin d'eux. C'est tout l'édifice qui devient obsolète et qui s'effondre. Voilà, et ça peut durer encore longtemps. Et, comble de l'ironie, l'auteur installe le roman aux États-Unis, plus précisément au Texas, état pétrolier par excellence. Et le thème et le fil rouge du roman est effectivement la question de l'énergie. L'auteur s'est inspiré d'un véritable chercheur, Nikola Tesla, né en 1856, mort en 1943, moins connu qu'Edison, mais qui aurait déposé 300 brevets, dont beaucoup ont été récupérés par d'autres scientifiques. Et c'est lui, entre autres, qui a mis au point le courant alternatif et son grand rêve, idem le héros, enfin le héros mort assez jeune d'ailleurs, Phil Joe, qui rêvait d'un réseau mondial d'énergie gratuite. C'est un peu l'archétype du génie fou. Le fameux Phil Joe explique donc à son beau-frère à propos de Tesla. On lui a collé l'image d'un illuminé, d'un savant fou, et on l'a laissé crever seul, ruiné dans une chambre pas plus grande que celle-ci. Et puis avec le temps, alors qu'on encensait les Edison et compagnie, alors qu'on les portait au nu, on a versé des tonnes et des tonnes de terre bien tassées sur la tombe de ce pauvre Tesla. Je fixais le poing de Philippe Joseph, il tremblait. Ses jointures étaient blanches. Ne fût-ce que par réflexe, le coup pouvait partir à tout instant, mon attention était monopolisée par les diverses façons d'esquiver ce que j'envisageais. Cependant, une petite partie de mon cerveau devait rester branchée sur la discussion. Ce fut elle, je présume, qui me poussa à demander « Pourquoi aurait-on fait ça ?» Même si la question qui importait vraiment eût été plutôt « Quel rapport entre ce Tesla et nous ?»« Pour être sûr qu'il ne s'en relèverait pas, » dit Philippe Joseph. L'auteur fait l'équilibriste entre mensonge et vérité, entre faits réels et documentés et fiction pseudo-scientifique. Il joue sur plein de registres. Et il insère des événements réels par la parole des narrateurs. Exemple. Un Américain sur 100 est en prison. Les États-Unis ont le taux d'incarcération le plus élevé au monde, plus que la Chine et la Russie réunies. De 1977 à 2013, il y a eu 1321 exécutions. 40% des condamnés à la peine capitale passent au minimum 20 ans dans le couloir de la mort. Depuis 1973 à 2014, 167 condamnés à mort ont été officiellement innocentés. Et donc ce narrateur qui développe ce constat parle également de son état d'origine, qui est la Virginie occidentale. Il dit « Le secteur est en déclin. Les mines ferment les unes après les autres, entraînant chômage, misère et tout ce qui s'ensuit. God, guns and coal. Dieu, les armes et le charbon. C'est la devise des gens du coin. Personne ne vous dira ici que le réchauffement climatique a le moindre rapport avec le charbon. Quel réchauffement climatique d'abord ? Tout le monde sait que ce concept est une pure invention des socialistes, des politiciens, des bourgeois des villes. J'ai démarré ce roman avec une grande facilité et l'idée que j'entrais dans une enquête, certes un peu étrange, mais ça avait l'air de suivre son cours. Et puis, l'auteur nous bouscule, nous donne des fausses pistes. Et finalement, on ne sait plus où on en est à un moment donné. On cherche la vérité autant que les protagonistes. C'est à la fois déroutant et passionnant. Le thème du complot est omniprésent, mais les arguments qui confortent cette idée seront balayés plus tard avec autant de précision. Et au fond, on n'est jamais sûr de rien. D'autant que, dans ce roman, ceux qui approchent la vérité ont tendance à disparaître. Et là encore, mort naturelle ou pas, mystère. Il a donc un aspect polar avec les peurs, les filatures, vraies ou fausses, des agressions. Avec son côté bizarre et parfois presque incompréhensible, l'auteur aborde avec ironie et finesse le travers d'un monde aujourd'hui quand même un peu sordide. Et ça parle de grands trusts au pouvoir, d'erreurs judiciaires, de grandes compagnies pétrolières, la guerre du Vietnam, l'argent, le pouvoir, les magouilles. Les références sont nombreuses, politiques, littéraires, psychologiques. Et il n'aborde pas que l'énergie, bien sûr, donc les travers du capitalisme, les manias du pétrole, les prisons texanes, avec les couloirs de la mort, la justice, l'amour, la folie et la paranoïa. Il ironise sur ce qu'est ce pays, et en particulier cet état du Texas. À un moment donné, un des protagonistes interroge, à un moment des récits, le père d'un condamné à mort. Et voilà ce que dit le père. Alors, je ne mets pas les prénoms pour pas vous donner des pistes, puisqu'il va falloir aussi que vous soyez surpris. Il a pris une large inspiration et il m'a expliqué que s'il y avait une chose en laquelle il croyait, c'était la justice de son pays. Son fils avait eu droit à un procès équitable, étaient présents un procureur et un juge et un greffier et des témoins et tout ce que le système judiciaire préconise dans ces circonstances. Il avait bénéficié d'un avocat pour sa défense et il avait pu s'exprimer devant un jury composé d'honnêtes citoyens américains. Et si ce jury avait finalement proclamé qu'il était coupable et si le juge avait confirmé et approuvé ce verdict, il n'y avait pas de raison de remettre en cause leur décision. Là-dessus, je n'ai aucun doute, non, il a dit. Mais enfin, la justice n'est pas infaillible. Les erreurs judiciaires, ça existe, on en a déjà vu. Vous pensez que votre fils est capable de faire ça? De commettre des actes aussi horribles? Je regarde les informations, monsieur. Je lis les journaux. Vous avez vu dans quel monde nous vivons. Voilà, un peu glacial, hein, quand même. Mais malgré tout, les personnages sont attachants avec toujours la même question. Mais qui sont-ils vraiment? Qu'ils soient principaux ou secondaires, d'ailleurs. Et puis, il y a des rencontres insolites. Ainsi, un des narrateurs, qui vit momentanément dans un lieu plus ou moins collectif, découvre une personne dans son chalet. Et la rencontre est vraiment mais invraisemblable. Et donc, petit extrait. Hein. Mais vous cherchez quoi? Eh bien, il hésitait. Vas-y, j'ai pensé. Vas-y, fils de pute, crache-le. Je cherche le grand Géoucoucou. J'ai failli lâcher mon caillou. Le grand quoi? Géoucoucou, Géococcus californianus. C'est un oiseau. Vous connaissez Bip Bip, le personnage du dessin animé? Je l'ai fixé sans répondre. Est-ce qu'il se payait ma tête? Il a poursuivi. Le Géoucoucou est l'oiseau qui a servi de modèle à la création de ce personnage. Je suis ornithologue. Je suis venu chercher des traces éventuelles de sa présence. Ici, à Dallas? C'est bien toute la question. Je comprends votre étonnement et je le partage. L'habitat ordinaire de cette espèce se situe dans les zones arides ou semi-arides. Elle a une prédilection pour les déserts. Cependant, ces derniers mois, nous avons reçu plusieurs témoignages de gens affirmant avoir vu des spécimens en ville. C'est précisément ce que je suis venu vérifier. Si ces informations se confirmaient, cela signifierait... Et vous pensiez que je cachais un de ces spécimens chez moi, sous mon lit? à nouveau sa bouche en queue de poule, sa gueule de poisson-chat. Comédie. Il a secoué vivement la tête. C'est un malentendu, il a fait. Donc, un peu de cynisme, un peu d'humour et un peu de situation burlesque. Mais je confirme, je suis allée vérifier, le géocoucou existe bien. En fait, l'auteur nous manipule et nous trimballe, et ça questionne. Fiction ou réalité, il fait vaciller les petites convictions que l'on a construites au fur et à mesure de notre lecture. C'est vraiment un roman à tiroir et embuscade, et franchement, je me suis prise au jeu. Et le dernier récit, qui est vraiment sur un autre registre, là, pour le coup, et qui est, je dirais, éminemment obscur, glaçant, politique, mais qui dit vraiment plein de choses de notre société actuelle et aussi de la société des animes, mais de la société en général, et je trouve un sacré morceau de lecture aussi. Et comme il arrive à la fin, moi je l'ai lu deux fois parce que j'avais pas tout capté la première fois et j'ai pas vraiment très bien compris qui parlait. Donc, si un jour il y a des gens qui viennent à la médiathèque et qui ont lu ce livre, qui viennent en discuter, parce que c'est un peu un mystère. Et en tout cas, ce chapitre est vraiment hyper intéressant. Pour finir, je vous lirai juste un petit extrait qui donne vraiment le ton de ce roman. Et je crois que l'auteur s'amuse quand il écrit ça. Donc ça, c'est un ancien policier qui parle. Tout n'est pas clair, je le reconnais, des zones d'ombre subsistent. Mais sont-elles essentielles à la compréhension globale de l'histoire? Ne sont-elles pas plutôt comme ces arbres dressés ici et là qui nous empêchent d'apercevoir la forêt? La vie est pleine de mystères. L'être humain est plein de mystères. Le chaos règne et, d'après les lois jusqu'ici toujours en vigueur, la thermodynamique, le chaos, ne peut pas être transformé en système organisé. Voilà, un drôle de roman que j'ai beaucoup aimé finalement, d'autant que le style variant selon les personnages et les événements s'enchaînant, on ne s'ennuie vraiment pas. Et en fait, jusqu'au bout, l'auteur nous balade. En fait, je n'avais pas percuté en prenant le livre, mais il est noté en première page, roman traduit de l'anglais, États-Unis, par Edward Dames. Alors qu'en fait, Marcus Mald est un auteur français et que le fameux Dames est un de ses personnages d'un autre roman. Vraiment un pavé, mais voilà, n'hésitez pas, si vous le voyez à la médiathèque, allez-y. Et par ricochet, alors je ne vais pas vous en parler et je ne vais pas vous lire des extraits, mais il se trouve, ça c'est vraiment incroyable, tout à fait par hasard, j'ai pris un autre livre à la médiathèque qui s'appelle « L'anomalie » d'Hervé Le Tellier aux éditions Gallimard et qui est un peu sur le même registre de scientifiques absurdes, des choses incroyables et qui en dit plein aussi. Et là, je ne vous lis surtout pas des extraits parce qu'il faut vraiment se laisser surprendre. Donc, je vous laisse avec ces deux titres. Je vous rappelle le premier roman. C'est, alors, que je retrouve le titre exact. « Qui se souviendra de Philip Joe ?» de Marcus Mald aux éditions Zulma. Et donc le deuxième, L'anomalie d'Hervé Le Tellier aux éditions Gallimard. Eh bien, bonne lecture et à bientôt.
Des livres.
De la musique.
Des jeux.
Du cinéma.
Des animations.
Des événements.
Des rencontres.
À Radio Bartas, on vous parle de nos coups de cœur.
L'eau à la bouche, une émission proposée par la bibliothèque de Florac Trois-Rivières et ses amis.